Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, manque de vigilance, manque d'information. Sanofi a commis une faute. Des victimes peuvent se joindre à une action de groupe. Ce sont les mots du tribunal judiciaire de Paris. Une étape importante franchie dans l'affaire de la Dépakine ce matin. Nous voyons cela dans un instant. Covid, tempête et politique, cas positifs, hospitalisation, les chiffres toujours à la hausse. Et la phrase d'Emmanuel Macron qui provoque la tempête politique du jour. Le président veut emmerder les non-vaccinés. Opposition outrée, majorité crispée. Pourquoi le choix de ces mots? Analyse de Maxence Lambrecq. Et question à Olivier Beaumont, journaliste politique au Parisien, dans lequel est publiée cette interview. Long entretien dans lequel il y a beaucoup d'autres choses qui dessinent le portrait d'un quasi-candidat qui ébauche un programme. Le Covid, c'est aussi l'école. Les tensions de la rentrée, ça pèse-t-elle? Les tests, le protocole, les capteurs, je vous attends au standard sur cette rentrée Covidée. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir, dialogue avec nos deux invités, directrice d'école et parents d'élèves. Et avant tout cela, nous irons en Guadeloupe. Le directeur de l'hôpital séquestré et molesté par des manifestants opposés à l'obligation vaccinale. Dans l'actualité encore, le télescope James Webb a déployé son bouclier, un exploit de plus. Les grands excès de vitesse en forte hausse au moment du confinement, les routes étaient vides. Et puis les sorties cinéma du jour, ce sera avec Corinne Pélissier. Vos autres rendez-vous, le feuilleton, une semaine dans une maison médicale à Cholet, le vif de l'histoire, un an après l'assaut du Capitole, les doutes qui demeurent à propos d'une autre grande crise américaine, l'assassinat de Kennedy, et puis dans C'est une chanson avec Frédéric Pommier, un titre méconnu de Jeanne Moreau, L'enfant que j'étais. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Dans l'affaire de la Dépakine, une étape très importante dans le combat mené par les familles de victimes est franchie aujourd'hui. Le tribunal judiciaire de Paris juge que le laboratoire Sanofi a commis une faute, manqué à son obligation de vigilance et d'information. La Dépakine, médicament contre l'épilepsie en vente depuis 1967, pris par des femmes enceintes, il risque de provoquer des malformations du fœtus, puis des troubles du développement. Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
Et la justice autorise, Hélène, des familles de victimes à se joindre à une action de groupe contre le labo.
Oui, étape extrêmement importante et surtout très symbolique pour les familles, car le tribunal retient dans son jugement que le laboratoire Sanofi a commis une faute en manquant à son obligation de vigilance et d'information. Au vu des études scientifiques de l'époque, il aurait dû prévenir les femmes des dangers de certaines malformations, et ce, dès 1984, un début de victoire pour Caroline Dere. Cette Savoyarde a pris de la Dépakine pendant sa grossesse. Son fils de 8 ans souffre de malformations. Elle est interviewée par Mélanie Tournadre de France Bleu Pays de Savoie.
Déjà, en fait, il y a un soulagement du fait que le tribunal ait dit qu'il y a eu une défaillance de ce côté-là. Pour nous, c'était un début parce que, en fait, quand on se heurte à des géants, du labo comme Sanofi, on nous certifie par A plus B que non, ils sont pas fautifs, tout ça. Bah, c'est vrai que nous, c'est une reconnaissance, qui, moralement, quelque part, nous fait du bien, même s'il s'enlèvera jamais tout ce qu'on a subi avant et tout ce qu'on subit et tout ce qu'on va subir par la suite, quoi.
Petite ombre à cette victoire, le tribunal fixe des dates. La responsabilité de Sanofi est engagée à partir de 1984 pour les malformations, mais seulement à partir de 2001 et jusqu'en 2006 pour les troubles du neurodéveloppement, comme l'autisme. Certaines victimes pourraient donc être exclues de cette action de groupe. Charles-Joseph Houdin est l'avocat de l'association des victimes de la Dépakine, la PESAC.
Ces dates nous semblent très restrictives et non conformes aux données de la science qui sont en notre possession aujourd'hui, car nous considérons pour notre part que dès 1984, pour les malformations, mais aussi pour les troubles neurodéveloppementaux, la responsabilité du laboratoire est acquise. De 1984 jusqu'en 2015.
Oui, date 2015, date selon laquelle l'information de danger pour les femmes enceintes apparaît correctement sur la boîte de médicaments selon l'association. Dans un communiqué publié ce matin, Sanofi annonce faire appel de cette décision. Comme depuis le début, le laboratoire rejette toute responsabilité, estimant avoir été transparent et avoir modifié la notice du médicament conformément à l'évolution de l'état des connaissances.
Et selon l'assurance maladie et l'agence du médicament, la Dépakine est responsable de malformations chez 2 à 4000 enfants et de troubles neurodéveloppementaux chez 16 à 30 000 enfants. C'est donc un des plus grands scandales liés à l'industrie pharmaceutique en France qui a vécu une nouvelle étape aujourd'hui. Allez, nous ouvrons la page Covid de ce journal. On parle dans un instant des propos du président de la République qui veut emmerder les non-vaccinés, mais d'abord Arrêt en Guadeloupe. Les tensions vont bien au-delà des mots en Guadeloupe. De la part des militants opposés à l'obligation vaccinale des soignants, un cap supplémentaire a été franchi dans la violence. Le directeur de l'hôpital de Pointe-à-Pitre et deux de ses adjoints ont dû être évacués de leur bureau par la police. Rémi Brancato, ils ont été frappés et séquestrés.
Oui, en fait, tout a commencé dans la journée. 80 à 100 personnes font le siège des bureaux de la direction. Impossible de sortir. Le soir venu, la police intervient. Elle exfiltre les membres de la direction au milieu de cette foule qu'on voit sur cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Manifestants et quelques soignants suspendus car non vaccinés, venus réclamer leur salaire. Le directeur du CHU, Gérard Cotelon, raconte avoir été frappé, tout comme son adjoint.
Nous avons d'abord reçu un jet d'urine dans le visage, puis au moment de sortir, malgré le cordon de police, mon adjoint a reçu des coups, puis reçu des coups, et puis notamment un violent coup à la tête. Il y a eu un trou noir, j'ai dû perdre connaissance pendant quelques secondes.
Les vêtements de son adjoint sont déchirés, la voiture d'une assistante gravement endommagée. Gérard Cotelon attend maintenant une expertise médicale, lui qui avait déjà été menacé de mort ces dernières semaines.
Ça a été le caillassage de mon bureau, le caillassage de la voiture d'un de mes collaborateurs, des tirs de mortier à proximité de ma maison. Et puis hier soir, là, l'agression physique. Hein, je veux dire, le coup de poing que j'ai reçu à la tête, ça aurait pu être un coup de couteau, ça aurait pu être n'importe quoi. Je pense que c'est le seul endroit sur le territoire national où ce genre de choses se passent. Tout ça est absolument hallucinant.
Il dit attendre les consignes de la police avant de retourner à l'hôpital où il y a du travail. Les cas de Covid sont en augmentation. Toujours déterminé, dit-il, face à une conjuration de malfrats et de malhonnêtes. Fin de citation.
Cas de Covid en augmentation et l'état d'urgence sanitaire décrété en Guadeloupe, tout comme en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Des violences donc contre l'obligation vaccinale imposée aux soignants à Pointe-à-Pitre, au CHU de Guadeloupe. Fait savoir la direction, 95% du personnel répond à cette obligation. Le climat, c'est donc aussi cette phrase d'Emmanuel Macron au milieu d'une très longue interview au quotidien Le Parisien aujourd'hui en France. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
On voit la bourrasque politique dans un instant. Maxence, d'abord pour ne pas s'arrêter que sur une phrase, l'interview comporte 6 pages. Il y a pas mal d'autres choses à en retenir de la part d'un président qui ne cache plus son envie, c'est le mot qu'il emploie, de se représenter.
Et oui, par petites touches, Emmanuel Macron dévoile ses axes de campagne. La santé, bien sûr, d'abord, chantier colossal, mieux reconnaître les métiers du soin, les payer dignement, revoir les temps de travail, réhumaniser les tâches à l'hôpital. Le chef de l'État sent bien que les déserts médicaux, les fermetures de lits seront au cœur de la campagne. Deuxième axe, l'éducation. Là aussi, plus de moyens, repenser la fonction, le temps scolaire, offrir des libertés aux directeurs dans le recrutement, dans le projet pédagogique, selon leur territoire, dit ici Emmanuel Macron. Troisième chapitre, l'énergie, nouveau plaidoyer pro-nucléaire, une chance historique pour la France. Nous allons construire des réacteurs de nouvelle génération, assure le futur candidat. Enfin, il vise la droite et Valérie Pécresse en changeant de pied sur les droits de succession. Elle propose de les alléger. Lui, en 2016, était pour les augmenter. Cette fois, il y a, dit-il, sujet sur ce que j'appellerais la transmission populaire, les montants qui ne sont pas exorbitants. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut augmenter les droits de succession à tout va, au contraire.
Et donc la phrase à propos des non-vaccinés et du pass sanitaire en préparation, nous met dit le président, la pression sur les non-vaccinés en limitant l'accès aux activités de la vie sociale. En démocratie, le pire ennemi, c'est le mensonge et la bêtise. C'est une toute petite minorité qui est réfractaire. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. On va continuer de le faire jusqu'au bout. Alors, réaction outragée de toute l'opposition politique, moins des médecins. À quelle stratégie, Maxence, correspond ce retour d'une petite phrase choc de la part d'Emmanuel Macron ?
Bien, la politique, c'est une guerre de mouvement, assume son entourage. Il a trop d'adversaires pour rester dans l'attente, au-dessus de la mêlée pendant encore un mois. Il se doit d'être dans le chaudron, de faire l'actualité, estime un de ses stratèges, et son parler cash direct. Ce n'est pas une nouveauté, les Français l'ont toujours connu ainsi, c'est son style. Il a toujours alterné le langage soutenu, rassembleur et les propos familiers. L'Élysée n'a donc pas amendé cette phrase à la relecture de l'interview hier. Il dit tout haut ce que les Français pensent tout bas, les non-vaccinés nous emmerdent, rajoute un de ses lieutenants. Il surjoue le clivage pour mieux s'opposer à Éric Zemmour et Marine Le Pen qui soutiennent les sceptiques. Et l'hystérie de l'opposition nous arrange, complète un communicant. Ce sont eux les irresponsables qui, à cause de cette phrase, bloquent les débats à l'Assemblée alors que nous, nous gérons la crise. Emmanuel Macron espère ainsi prendre à partie la fameuse majorité silencieuse qui serait, selon lui, exaspérée par les non-vaccinés.
Et après cette phrase, le débat sur le pass a nouveau été suspendu à l'Assemblée. Il doit reprendre cet après-midi à 15h. Doute sur le calendrier. Théoriquement, la mesure entre en vigueur vigueur le 15 janvier. Alors allons-y pour les réactions. Valérie Pécresse, indignée, ce n'est pas au président de la République de trier entre les bons et les mauvais Français. Il faut les rassembler sans les insulter. Elle pointe le manque de sérénité, la fébrilité du chef de l'État. Marine Le Pen parle de vulgarité, de faute morale. Éric Zemmour de cruauté assumée, de mépris des Français. Jean-Luc Mélenchon voit dans cette phrase l'aveu sidérant que le pass est une punition collective. Et dans la majorité, est-ce qu'on est embarrassé? Est-ce qu'on est à l'offensive? Élément de réponse avec Anne Souhaitement.
Ces mots ont mis du baume au cœur à plusieurs députés. Invité ce matin sur France 2, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, choisit soigneusement ses mots et prend en filigrane ses distances avec ceux du président.
Parfois le président de la République s'exprime de façon soutenue, parfois c'est de façon familière. Là, il s'est exprimé de façon familière. Je pense que tout le monde a compris ce qu'il voulait entendre. C'est lui qui dira s'il le regrette ou s'il le regrette pas. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a compris ce qu'il voulait dire.
Des regrets, nombre de députés aimeraient en entendre de la part du président. Personne dans la majorité n'est heureux de cette interview, confie un élu de poids, atterré par la formule du chef de l'État. Je n'ai pas été élu pour emmerder les Français, mais pour les protéger. Et aujourd'hui, le sujet, ce sont les 300 000 cas par jour. Colère aussi du côté d'élus de la majorité récemment menacés par des anti-vaccins. Nous avons besoin de sérénité, pas de mettre de l'huile sur le feu, s'énerve l'un d'eux. Jadis proche d'Emmanuel Macron, un autre parlementaire influent s'inquiète lui d'une France profondément divisée. Hier, notre président s'est placé entre Donald Trump et un pompier pyromane. Comment répondre ensuite aux insoumis ou aux doigts d'honneur d'Éric Zemmour, s'interroge-t-il, préoccupé par la tournure de la campagne à venir.
Les réactions d'un médecin, le professeur Éric Combes sur BFM. Il comprend en tant que médecin, dit-il, le dérapage probablement contrôlé d'Emmanuel Macron, en soulignant l'exaspération des soignants face aux non-vaccinés. En tant que citoyen, ajoute le professeur Combes, je suis un peu plus surpris, mais c'est la campagne électorale qui a débuté. En effet, et bonjour Olivier Beaumont.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Vous avez coordonné cette interview qui s'est déroulée à la salle des fêtes de l'Élysée. Je dis coordonné parce que ce sont des lecteurs de votre journal qui se sont entretenus avec le président de la République. Maxence Lambrecq parlait de relecture. Ça nous dit si cette phrase a été lâchée à l'emporte-pièce ou pas. Vous confirmez que, comme souvent pour les interviews de presse écrite, il y a eu une relecture de la part de l'Élysée?
Oui, c'est ce qu'on appelle une relecture de courtoisie. Juste pour vous rappeler le contexte, hein, l'interview, elle a eu lieu effectivement avec nos lecteurs dans la salle des fêtes de l'Élysée. Elle a duré un peu plus de 2 heures. Effectivement, nous n'avons pas retranscrit, en tout cas pas republié l'intégralité des 2 heures de cette rencontre entre le chef de l'État et nos lecteurs. Et donc, on a envoyé, effectivement, il y a quelques questions qu'on n'a pas pu garder, pas toutes, hein, parce que parfois, certaines réponses du président étaient très techniques, hein, notamment une sur la PAC, qui était très longue et très technique, qu'on n'a pas gardée parce qu'on avait jugé que, dans le long de l'interview, on risquait de perdre l'attention de nos lecteurs. Et donc, on a envoyé ce texte, on a eu un retour très vite, et c'est une relecture de courtoisie, il n'y a rien qui a été retouché. Toutes les phrases, tous les mots ont été, bien sûr, maintenus, tous ceux qui ont été prononcés par le président.
Et que ce soit vos lecteurs qui interviewaient Emmanuel Macron ou vous-même, est-ce que vous avez sursauté quand la phrase a été prononcée?
Alors nous, évidemment, en tant que journaliste, en tant que professionnel de la profession, j'ai envie de dire, on a tiqué, évidemment. Ça c'est une phrase qui peut faire réagir, qui peut hérisser les oppositions. Après, pour vous remettre là encore dans le contexte, cette phrase, ce propos, cette démonstration qu'il fait, elle intervient après une heure, hein, une longue heure déjà d'entretien, donc à un moment où la relation, le discours, le dialogue s'est vraiment installé avec nos lecteurs, et il fait toute une démonstration, effectivement, sur la chasse qu'il entend mener contre ceux qui ne sont toujours pas vaccinés aujourd'hui, en rappelant qu'il y a eu d'abord le pass sanitaire au mois de mai. Après, au mois d'octobre, ils ont fait le passage au test payant. Et donc, la troisième étape, ce pass vaccinal. Et quand il dit ça, Emmanuel Macron, c'est une façon de dire aussi, je n'ai pas fini de les harceler. C'est dans ce sens-là qu'il dit emmerder. Et quand il le dit, c'est dans un propos, il n'y a pas d'agressivité, j'ai envie de dire. Il est tonique, mais il n'y a pas d'agressivité dans la forme. Et c'est vrai que nos lecteurs n'ont pas plus réagi que ça, j'ai envie de dire, quand il a dit ses propos.
Alors Olivier Beaumont, vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui fait le parallèle ou raconte les liens Sarkozy-Macron. C'est un peu du Sarkozy, cette phrase. Comment vous l'analysez et quel impact politique elle peut avoir?
Ah oui, effectivement, hein, on se souvient du casse-toi pauvre con de Nicolas Sarkozy. Après, Emmanuel Macron, on est habitué à ce genre de phrases, hein, un peu lâchées comme ça, et souvent d'ailleurs devant des Français. Hein, souvenez-vous, sa fameuse rencontre avec ce jeune apprenti qui dit « moi, je vais vous trouver du boulot, je suis de traverser la rue ». Quand il parle de lui, il n'y a pas d'argent magique. Donc, il y a toujours cette alternance. Édouard Philippe l'a rappelé ce matin, quand il était en interview, entre ce langage soutenu et familier. Et quand on discute avec les très proches du président de la République, ses collaborateurs, ils vous diront aussi public très régulièrement. Le président, il peut avoir parfois un langage un peu charretier. Et donc là, il était à l'aise, il était en confiance. Et au bout d'un moment, il finit effectivement par lâcher cette phrase, ce mot qu'il redit plusieurs fois d'ailleurs, hein, emmerdé. Donc je pense que c'est venu assez spontanément. Je ne dirais pas que c'était préparé, mais en tout cas, c'est complètement assumé. Et je ne pense pas, j'ai pas eu d'échange direct avec le président de la République depuis que l'interview est parue, mais je ne pense pas en tout cas qu'il l'ait regretté. Par contre, Nicolas Sarkozy, il a payé le prix lourd, hein, ces phrases-là, oui. Le castor pauvre con, il le paye encore aujourd'hui. Il n'est pas impossible, il n'est pas exclu que cette phrase, en tout cas, redonne un certain dynamisme aux anti-vax, hein, parce que on voit qu'ils se réunissent dans les ronds-points, qu'il y a des manifestations, mais dont on parle finalement assez peu. Là, ça peut leur redonner du grain à moudre, et il ne faut pas exclure que dans les prochains déplacements du président de la République, hein, il va notamment se déplacer la semaine prochaine, il n'est pas exclu qu'il y ait des mouvements d'hostilité d'anti-vax qui viennent se joindre à sa rencontre avec des slogans, des affiches ou sur leur t-shirt même. Oui,
on verra ça.
On vous emmerde, monsieur le président. Quoi.
Merci Olivier Beaumont d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. L'interview dans Le Parisien donc. Et alors cette stratégie qui vise à emmerder les Français, comme le dit le président, est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce la perspective du pass vaccinal, un travail de conviction qui paye ou la lassitude? En tout cas, William Delesseux, dans le centre de vaccination du parc Chanot à Marseille, ce matin, plus d'une injection sur 10. C'est une première dose ce matin.
C'est la toute première fois pour Jean, une toute première dose, son pass sanitaire n'est plus valide.
J'ai eu le Covid il y a 14 mois et du coup moi je suis intermittent du spectacle, je faisais quelques tests antigéniques quand j'allais au boulot.
Le jeune homme de bientôt 26 ans rencontre son vaccinateur.
Alors une question indiscrète, qu'est-ce qui vous amène à vous faire vacciner ?
J'ai envie de continuer à vivre correctement.
Je pense que vous avez choisi la bonne solution.
Je pourrais... sans trop réfléchir, aller dans un bar, mener ma vie tranquillement, sans me poser la question de « Ah, est-ce que j'ai mon pass, est-ce que je l'ai pas, est-ce que je vais pouvoir faire ci ou ça ?» Mais après, je pense qu'il faut quand même emmerder le peuple pour qu'on aille vers une éradication du virus, sinon on va jamais s'en sortir, c'est pas drôle quoi.
D'autres y viennent à reculons, comme Caroline, cette infirmière accompagne son fils Tristan, 13 ans.
Je n'avais pas envie que mes enfants soient vaccinés.
Tous les jours aller faire des tests, ça allait devenir gonflant.
Mais surtout que ça marchera plus.
C'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
Thierry Zaveroni, marin-pompier, responsable du centre de vaccination, assiste aux opérations.
Ceux qui sont vraiment opposés à la vaccination, ils le manifestent clairement, ils nous le disent.
Des réfractaires qui se sont laissés convaincre, le centre restera ouvert pour eux et les rappels au moins pour 3 mois. Marseille, William Delesseux, France Inter.
Les nombres clés de l'épidémie ces dernières heures, nouveau record de contamination, 271 686 et la barre des 20 000 patients hospitalisés qui est franchie. Et puis les tests, 1 million de tests réalisés tous les jours, revendiquent les pharmaciens dans les officines. Ces tests largement remboursés, les autotests largement pris en charge dans le cadre de la nouvelle politique d'isolement. Ajoutez à cela les aides aux entreprises touchées par cette double vague de Covid, Delta et Omicron. La politique du quoi qu'il en coûte est officiellement terminée, mais ces dernières semaines, Delphine Simon, les dépenses auront été à nouveau assez massives.
Oui, les Français ne se sont jamais fait autant dépister. Une trentaine de millions de tests au mois de décembre, c'est un septième de tout ce qui a été effectué depuis le début de la pandémie, un record. Des tests gratuits pour les personnes vaccinées, pris en charge intégralement par la Sécu. Ils coûtent entre 25 et 45 euros, selon qu'ils sont effectués en pharmacie ou chez un médecin. Avec Omicron, la facture s'annonce donc plus salée que prévu pour le budget de l'État. L'an passé, Bercy avait provisionné 5 milliards 200 millions d'euros. La facture va grimper autour de 6 milliards. Cette année, ce sera plus que prévu dans le budget, car le mois de janvier démarre lui aussi sur les chapeaux de roue. Du côté de Bercy, on assure que c'est l'État qui compensera, car ces dépenses sont utiles pour nous sortir de la crise. Inutile de remettre au pot pour soutenir les entreprises en cette période. 100 millions d'euros sont déjà annoncés, promet Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, car les réserves du fonds d'urgence n'ont pas été entièrement dépensées.
Et voilà pour cette page Covid. Nous y revenons dans 10 minutes en parlant de la situation à l'école. 3 jours après la rentrée, j'attends vos questions au 01 45 24 7000 ou via l'appli France Inter, rubrique Réagir.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
C'est un jour très spécial. Dans la bouche d'un astronome, cette petite phrase équivaut à un grand cri de joie. Et cette phrase a été prononcée par le responsable scientifique de l'opération James Webb ces dernières heures. James Webb, de ce télescope qui a décollé le jour de Noël à bord d'une fusée Ariane 5, on attend rien de moins qu'il nous en dise plus sur les origines de l'univers. C'est un géant. À bord d'Ariane 5, il était replié. Et Sophie Becherel, une étape décisive de la mission a été franchie hier. Le bouclier thermique s'est déployé dans l'espace à près d'un million de kilomètres de la Terre.
Ce bouclier, c'est un pare-soleil composé de 5 couches ultra fines de capton, une sorte de film plastique résistant aux températures extrêmes. Et comme d'autres éléments du géant James Webb, il a été replié sous la coiffe d'Ariane 5. Chaque étape ressemble à celle d'un papillon qui sortirait de sa chrysalide. Pour ce bouclier thermique, après l'ouverture des deux bras latéraux, 107 petits moteurs ont actionné câbles et poulies pour étaler le pare-soleil aussi grand qu'un terrain de tennis. Des étapes testées auparavant sur Terre, mais l'espace est un milieu bien plus hostile, rappelle Olivier Lamarle, coordinateur des programmes astronomie au CNES.
Dans l'absolu, mettre des poulies, des câbles, des actionneurs, on sait faire sur Terre. La difficulté là, c'est qu'il faut que ce soit miniaturisé au maximum. On peut pas se permettre de mettre des gros moteurs pour être sûr qu'ils auront la puissance nécessaire si jamais ça coince un peu. Faire fonctionner une poulie, un câble, un mécanisme de déploiement à 20 degrés, c'est pas la même chose que de le faire fonctionner à moins 60, à moins 80 ou à plus 50 degrés. Donc tout ça, c'est un concentré de toutes les difficultés qu'on a dans l'espace en une seule fois.
Si cette étape était cruciale, c'est que sans protection thermique, le James Webb ne peut pas réussir sa mission. Il est destiné à observer l'univers dans l'infrarouge et pour cela, ses instruments doivent rester aux températures ultra froide de l'espace. Pour contrer l'effet radiateur du soleil, le pare-soleil géant permettra de maintenir passivement le côté miroir et les instruments à moins de 230 degrés quand le côté exposé au soleil restera aux environs de 80 degrés.
Et c'est dans 6 mois que James Webb doit atteindre son orbite finale qui sera à 1,5 million de kilomètres de nous, pauvres terriens. Près d'une semaine après l'explosion d'une voiture à Jeddah en Arabie avant le départ du Paris-Dakar, il y a suffisamment d'éléments pour ouvrir une enquête pour terrorisme, précisément tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. C'est le parquet national spécialisé dans ces affaires qui mène l'enquête préliminaire avec la DGSI, les renseignements. C'était 2 jours avant le départ de la course à Jeddah. 6 personnes à bord du véhicule, Philippe Boutron, concurrent du Dakar pour l'équipe Sodicar et par ailleurs président du club de foot d'Orléans, a été très grièvement blessé aux jambes. Il y a déjà eu des menaces terroristes contre le Dakar. Il y avait eu une attaque par ailleurs contre des intérêts français à Jeddah en 2020 lors d'une cérémonie du 11 novembre. Bonjour Christian Chesneau.
Bonjour.
Au plan diplomatique, Christian, cette affaire met l'Arabie Saoudite en position délicate.
Écoutez Bruno, c'est une affaire qui vient troubler l'image du royaume qui veut justement redorer son blason par le sport et s'ouvrir sur l'extérieur. L'Arabie Saoudite est considérée comme un pays sûr. Seule la zone frontalière avec le Yémen est formellement déconseillée par le Quai d'Orsay. Le pays a malgré tout connu dans le passé une vague d'attentats islamistes dans les années 2000 et en 2007, 3 touristes français avaient été assassinés par des terroristes au bord d'une route. Aujourd'hui, l'homme fort du royaume, le prince héritier Mohamed Ben Salman, dit MBS, a engagé une révolution sociétale qui remet en cause le pouvoir des religieux. La police des mœurs a ainsi été bridée. Les événements sportifs, les concerts de musique se sont multipliés ces derniers mois, sans parler de l'ouverture de cinéma. Cette libéralisation au pas de charge orchestrée par MBS séduit la jeunesse avide de nouveautés, mais le rythme de cette modernisation irrite aussi les secteurs les plus conservateurs de la société saoudienne qui pensent que tout cela va trop vite et que le royaume est en train de perdre son identité religieuse et bédouine.
L'étranger encore au Brésil, le carnaval de Rio annulé à cause du Covid. Jair Bolsonaro qui était hospitalisé pour des douleurs à l'abdomen dit qu'il va pouvoir rentrer. En bref, encore le groupuscule d'ultra-droite, les Zouaves de Paris, soupçonnés notamment d'être impliqués dans les violences lors du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte, dissous en Conseil des ministres. C'est ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Et puis le président du Conseil départemental du Gers, Philippe Martin, ancien ministre de François Hollande, condamné à 2 ans de prison avec sursis pour l'emploi fictif de son épouse à l'Assemblée. Les années 2019 et 2020, particulières en France, gilets jaunes puis confinement, se racontent aussi par l'évolution des excès sur la route. L'Observatoire national de la sécurité routière remet son bilan pour l'année 2020. Les excès de vitesse sont en hausse par rapport à 2019, mais c'est vrai que parmi les actions menées par les gilets jaunes, il y avait eu beaucoup de destruction de radars. Ce qui est notable tout de même en 2020, c'est la très forte hausse des grands excès de vitesse à l'époque où les routes étaient vides. Marie Gauthier-Melleret est la déléguée interministérielle à la sécurité routière.
Si je prends les très grands excès de vitesse, donc au-delà de 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée, il y a plus 66% d'infractions relevées par le contrôle automatisé et plus 43% d'infractions relevées par les contrôles opérés par les forces de l'ordre en bord de route. C'est donc une augmentation extrêmement forte. Dans le même temps, les excès de vitesse inférieurs à 20 km/h ont logiquement baissé puisqu'ils ont suivi en réalité la baisse du trafic. Je rappelle qu'un tiers des accidents mortels sont liés à la vitesse. On constate que les mesures type couvre-feu ou fermeture de lieux festifs ont induit une baisse assez forte des infractions liées à l'alcool. Moins 12% pour la partie délictuelle et moins 31% pour la partie contraventionnelle. En revanche, on constate dans le même temps une hausse des infractions liées à la consommation de stupéfiants. Et ça rejoint, hélas, une tendance qu'on observe depuis un certain nombre d'années.
La déléguée interministérielle à la sécurité routière, propos recueillis par Mathilde Dehimy. Allez, c'est l'instant plaisir du mercredi. La sélection cinéma de Corinne Pellissier. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Avec vous aujourd'hui, on danse donc le twist, on chante Pavarotti et on mange une pizza à la réglisse. Traduction littérale du titre du nouveau film de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza. Attention, coup de cœur.
Oui, Licorice Pizza, ah, c'est aussi le nom d'une célèbre chaîne de magasins de disques à Los Angeles dans les années 70, là où nous emmène aujourd'hui Paul Thomas Anderson, direction la Californie et la vallée de San Fernando. Il a grandi et tourné nombreux de ses films, Magnolia, ouais. Punch Drunk Love, Boogie Nights et aujourd'hui Licorice Pizza, qui nous offre quelques-uns de ses plus beaux souvenirs d'adolescence, accompagnés d'une BO qui va vous faire chavirer. Nina Simone, Sonny and Cher, David Bowie, les Doors qu'on entend, pour une histoire toute simple en apparence, qui se déroule en 1973. Un garçon au lycée qui va craquer pour une inconnue plus âgée que lui, tenter de la séduire par tous les moyens. Voilà, il n'y a pas plus banal. Et pourtant, le film va littéralement vous hypnotiser par la beauté de ses images, sa mise en scène, son atmosphère, l'émotion qui s'en dégage. C'est un film solaire, presque enivrant. Je vous l'ai fait l'américaine, hein, vous voyez, plein de superlatifs.
Beaucoup d'humour. Non, mais j'avais dit coup de cœur, ça colle.
Et surtout, ces deux comédiens qui crèvent l'écran, c'est leur premier rôle. Cooper Hoffman, le lycéen, un dragueur que Paul Thomas Anderson connaît depuis qu'il est tout petit, puisqu'il est le fils de son ami comédien fétiche disparu, ouais. Philip Seymour Hoffman, et la chanteuse Alana Haim, proche elle aussi du réalisateur, et qui dans le film vole la vedette à tout le monde, hein, y compris à Sean Penn ou à Bradley Cooper, pourtant très drôle dans le rôle du producteur coiffeur, ex-mari de Barbara Streisand.
Licorice Pizza, c'est un film France Inter, ce qui ne gâche rien. Également au cinéma ce mercredi, Corinne, Mes frères et moi.
Qui nous raconte cette fois l'histoire de Nour, 14 ans, coincé dans une cité au bord de la mer, avec une maman malade et trois frères à l'ego un peu envahissant dont les journées se résument surtout entre magouille, bagarre, tout en rêvant d'ailleurs. C'est un film adapté d'une pièce de théâtre, très lumineux, là encore avec en toile de fond la musique pour s'évader, car le secret de Nour, eh bien, c'est qu'il aime l'opéra. Il a notamment un fou de Pavarotti et grâce à une prof géniale jouée par Judith Chemla, eh bien, il va apprendre à chanter, apprivoiser son don. Très beau film pour un regard vraiment différent sur la banlieue, mise en scène par le comédien Johan Manka.
Et ça, c'est le troisième choix. Ça twist à Bamako, nouveau film plein de musique et de couleurs de Robert Guédiguian.
Voilà, qui délaisse pour une fois sa ville de Marseille à la faveur donc de Bamako. Ce sera un voyage également dans le temps, direction les années 60, la musique yéyé, très populaire à l'époque dans les clubs maliens, où la jeunesse savoure sa toute nouvelle indépendance en allant danser le twist. C'est dans ce contexte que l'on va croiser Lara et Samba, les deux héros du film. La première mariée de force en fuite, le second rempli d'idéal révolutionnaire. Des rêves qui vont peut-être se fracasser, en tout cas beaucoup d'humanité, un sens de l'esthétique qui rappellera les clichés du photographe malien Malik Sidibé. C'est très beau.
Merci Corinne Pellissier. La sélection cinéma chaque mercredi dans le 13-14, c'est toujours un plaisir. Dans un instant, la météo.
France Inter aime
La Cerisette d'Anton Tchekhov, mise en scène par Thiago Rodriguez, du 7 janvier au 20 février à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Alors que l'Empire russe s'apprête à basculer dans un monde nouveau, on vend le domaine familial. Dans un tourbillon tragicomique, ses habitants sont partagés entre espoir et nostalgie. Thiago Rodriguez réunit une troupe d'une douzaine d'acteurs autour d'Isabelle Huppert. La Cerisette à l'Odéon Théâtre de l'Europe, un spectacle France Inter.
Eh bien, il est 13h29.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
À toutes jambes et avec Sébastien Léaz. Bonjour Sébastien.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Retour du froid et du soleil.
Oui, forte baisse des températures aujourd'hui qui peuvent parfois perdre plus de 10-15 degrés par rapport au maximal d'hier. Exemple à Clermont-Ferrand, il faisait près de 17 degrés hier après-midi. On n'attend plus que 5 degrés cet après-midi. 5 degrés également pour Dijon et Metz, 6 à Strasbourg, Lyon et Limoges. Limoges, 7 degrés pour Rouen et Paris. 7 degrés aussi à Tarbes alors qu'il faisait près de 22 degrés hier après-midi. On attend 9 degrés à Quimper, Nantes et Bordeaux, 10 degrés à Biarritz et Perpignan, 11 degrés à Marseille. Mais tout de même, 15 degrés à Calvi et à Cannes et jusqu'à 17 degrés sur la côte est de la Corse.
Merci Sébastien Léas, Météo France. Il est 13h30.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
Et pour vous, comment s'est passée la rentrée scolaire? Vous, élèves, parents d'élèves, enseignants, appelez-nous pour raconter au 01 45 24 7000 et via l'appli France Inter. Le standard vous est ouvert jusqu'à 13h45 pour dialoguer avec nos deux invités. Johanna Cornou, bonjour.
Bonjour Bruno Duvic.
Directrice d'une école maternelle au Havre et secrétaire syndicale du SE UNSA de Seine-Maritime. Et bonjour Emmanuel Garraud.
Bonjour.
En studio avec nous, porte-parole de la PEP, la Fédération française de parents d'élèves de l'enseignement public. Johanna Cornou, comment se passe la rentrée pour vous? Quelle est la situation dans votre établissement? D'ailleurs, d'abord pour nous le présenter, combien de classes et est-ce qu'il y a beaucoup d'absents?
Alors c'est une école élémentaire de 11 classes. J'ai 262 élèves actuellement. C'est extrêmement chaotique. Là, pour vous dire, je ne peux même pas vous donner les chiffres exacts. J'avais 26 cas contacts ou cas positifs le dimanche soir, juste avant la rentrée. Et ça n'arrête pas de tomber depuis. J'ai reçu un SMS d'une collègue juste avant de vous rejoindre en ligne. Et donc, je vais devoir... annoncer à des parents dans quelques minutes qu'il va falloir qu'ils aillent tester leurs enfants s'ils veulent les remettre à l'école demain.
SMS voilà. D'une collègue qui est elle-même positive, c'est ça?
Non, c'est une enfant qui est positive. D'accord. Dans la classe, voilà. Et depuis hier, c'est ça. Donc ouais. J'approche des 35 situations Covid sur l'école, sur mes 262 élèves.
Et pour les enseignants?
Alors pour l'instant, heureusement, nous y échappons. Alors 100% de vaccinés dans l'équipe enseignante.
Oui.
Mais ça n'a pas empêché quand même les cas positifs jusque-là, mais vraiment à la marge. C'est-à-dire qu'on a été assez épargnés jusque-là.
Est-ce qu'on peut rappeler le protocole s'agissant d'une école élémentaire? Alors d'abord, les enfants sont masqués?
Oui.
En toutes circonstances?
Oui.
Qu'est-ce qu'un
cas... pour manger.
Sauf pour manger, oui. Qu'est-ce qu'un cas positif? Ça c'est facile. Qu'est-ce qu'un cas contact chez vous, école élémentaire?
Alors, sont considérés comme cas contact actuellement tous les enfants de la classe où il y a un élève positif.
Et également les enfants qui déjeunent avec d'autres qui peuvent être positifs. C'est les deux situations.
Oui, alors sachant que sur la ville du Havre, ou en tout cas dans mon école, le personnel de cantine a gardé les précautions qu'on avait déjà au plus fort de la crise l'année dernière, c'est-à-dire que les enfants sont par classe, il y a des tables qui espacent chaque groupe classe, oui. Des tables vides, et chaque enfant a une place attitrée. On a 16 pages de plans de table pour le réfectoire. Chaque enfant mange toujours à la même place. Comme ça, on est certain de savoir qui était à côté de qui. Et sachant que de toute façon, comme ils sont dans la même classe, ils sont automatiquement déclarés cas contact en cas de positivité d'un de leurs camarades.
Bon, voilà un premier coup de sonde. Emmanuel Garraud, du côté des parents d'élèves de la PEP, quel bilan dresse-t-on de ces 2-3 premiers jours d'école de janvier?
Eh ben, bilan de tension,
oui.
Forte. À l'évidence, donc avec une forte augmentation du nombre de cas positifs, essentiellement chez les élèves, dans une moindre mesure chez les enseignants, du moins pour le moment. Donc pour l'instant, je dirais que le premier état des lieux fait état, en gros, d'un nombre d'enseignants positifs à peine supérieur, légèrement supérieur à ce que l'on constatait au mois de décembre avant les congés. Mais évidemment, dans les jours qui viennent, on peut supposer que la chose va changer sans doute assez fortement.
Oui.
Et puis, il y a aussi un autre aspect qui est problématique, qui est celui des personnels qui interviennent en école.
Oui.
Donc, ACM, personnel en charge de l'entretien, oui. Ou du gardiennage, etc.
Les ACM, c'est, je dis les dames parce que c'est souvent des dames qui aident, notamment dans les écoles maternelles.
Absolument. Oui. Donc, moi, si je vous fais un retour sur le territoire que je connais le mieux, qui est l'Académie de Paris,
oui.
Aujourd'hui, à hier soir, les chiffres étaient aux alentours de 20 à 25% d'arrêt maladie sur ce type de personnel
oui.
Lié à la ville de Paris. Donc on est sur 20% pour les personnels du gardiennage et on atteint sur les animateurs pas loin de 30%.
Donc pas mal de cas positifs chez les élèves, moins que redouté pour l'instant chez les enseignants, mais les autres personnels sont très touchés. On va continuer ce dialogue avec nos auditeurs. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Vous enseignez en collège, comment ça se passe pour vous?
C'est un peu compliqué, j'étais plutôt partisan de ne pas retarder la rentrée,
oui.
Mais vu les chiffres actuels, je commence à me dire qu'il aurait mieux fallu. Pour vous donner une idée, j'ai 5-6 élèves absents par classe, j'ai une classe ce matin, on était à une dizaine même. Ça commence à poser des problèmes, ne serait-ce que pour faire cours tout simplement, parce que qu'est-ce qu'on fait des absents, ils ne peuvent pas vraiment continuer à faire cours et autres. Et il y a même, en parlant avec des collègues d'autres établissements qui sont même plus loin, l'établissement où je suis, c'est un peu généralisé, et il y a même ces centres de direction qui commencent à dire de freiner dans les progressions et tes apprentissages, parce que on ne peut pas temporiser avec un absentéisme si important en fait.
Alors, on vous entend pas très bien, donc je vais mettre fin assez vite à la conversation. Juste une question, ces élèves 5 à 6, voire plus, dites-nous, qui sont absents, comment est-ce que vous allez rattraper avec eux? Comment est-ce que vous allez vous organiser pour qu'ils puissent rattraper les cours? Parce qu'effectivement, ça fait beaucoup.
Très franchement, pour l'instant, je sais pas trop.
Ouais.
Je continue à faire cours normalement, si on peut dire. Moi, après, comme beaucoup de collègues, on dépose les cours sur le logiciel de Pronote ou autre, donc ils peuvent suivre à distance, mais c'est comme si on était en confinement sans vraiment l'être, parce qu'on peut pas les suivre comme on peut les suivre en classe. En fait,
merci Sébastien pour ce témoignage. Johanna Cornou, que dites-vous? Sébastien nous dit, moi j'étais pour l'école ouverte et on sait tous que pour les élèves avant tout, pour les parents, pour les enseignants, c'est compliqué l'école fermée. Est-ce que vous dites on arrive à la situation limite de cette volonté d'ouvrir l'école à tout prix?
Eh bien, c'est-à-dire que ça dépend des objectifs.
Oui.
Si l'objectif c'est que les enfants soient gardés, effectivement, de toute façon, il faut garder les écoles ouvertes. Mais clairement, le service public d'éducation est dégradé parce que, je vais vous donner un exemple très concret. Hier, j'avais des élèves qui devaient revenir à l'école absolument testés, puisqu'il y avait eu un cas positif dans la classe lundi. À l'entrée, ma collègue avait deux élèves en présence, des élèves qui étaient absents la veille. Deux élèves sont arrivés à la récréation à 10h. Deux élèves sont arrivés entre 11h35 et 11h45 pour manger. Et quatre élèves sont revenus pour l'après-midi. Les 14 autres élèves de sa classe étaient à la maison, mais pas en distanciel, parce que ils étaient soit déposés très vite chez les grands-parents, dans la famille, pour être gardés, soit ils étaient en train de courir après une pharmacie ou un laboratoire pour être testés. Donc on n'est pas... Là, actuellement, si vous voulez, la notion de continuité pédagogique, matériellement, elle n'est même pas possible. Parce que les enfants ne sont pas tous au même endroit, au même moment. C'est pas comme quand une classe est fermée, où là, on sait que tout le monde est à distance, plus ou moins disponible, mais en théorie, quand même, plus synchronisé, quoi. Et là, c'est vrai que ces retours perlés, en ignorant complètement dans quelle situation sont les enfants qui ne sont pas là, c'est vraiment très difficile à gérer et on ne peut pas continuer les programmes comme si de rien n'était. Mais en même temps, c'est difficile de se dire qu'on arrête puisqu'on n'est pas censé être fermé.
Emmanuel Garraud, c'est très clair. Que dites-vous de cette école perlée? Je reprends l'expression qu'utilise Johanna Cornou. C'est mieux que rien ou il vaudrait mieux être à distance tout le monde?
Écoutez, dans l'état actuel des choses, c'est mieux que rien, tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens techniques aujourd'hui, véritablement, de mener l'école à distance, dont on parle souvent et depuis longtemps, mais on constate depuis un an et demi, deux ans que la crise est arrivée, qu'aujourd'hui, techniquement parlant, ça ne fonctionne pas. C'est un fait. Alors, il y a peut-être un manque de matériel, d'organisation, peut-être aussi de bonne volonté de différents acteurs, en termes aussi bien d'équipement que d'enseignement à distance. Mais il en demeure pas moins qu'aujourd'hui, ce n'est pas opérationnel. Mmh. Et c'est sans doute un pis-aller, je doute fort, malheureusement, en particulier qu'un décalage d'une semaine de la rentrée aurait changé quoi que ce soit. Je doute fort qu'en fin de première semaine de janvier, le virus ait eu la politesse de s'éclipser. Je pense qu'en deuxième semaine, nous aurions tout simplement vécu ce que nous vivons cette semaine, malheureusement.
Témoignage de Claire au standard à présent. Vous enseignez en CE1, Claire. Bonjour.
Oui, bonjour. Oui, je tenais à témoigner, pas forcément en direct, mais bon, j'ai cédé parce que je suis un peu sur
la pression a dû être amicale. Allez-y.
Oui, oui, voilà. Donc moi, je voulais juste dire que l'école allait mal, enfin, de ce que je vois, voilà, de l'intérieur. Je ne suis pas sûre que la population s'en rende compte parce qu'on ne communique pas. On tient cette école à bout de bras et c'est vraiment nous qui la tenons, je peux vous assurer. Et je disais à hors antenne que on voit que l'hôpital va mal parce qu'à l'hôpital on meurt, on souffre et qu'on y passe tous. Mais à l'école on ne voit pas parce qu'on ne communique pas. Mais je pense qu'on est peut-être pas loin de la situation de l'hôpital. Voilà, avec du manque de personnel, des enfants qui souffrent, des collègues qui sont face au portail et face à la colère des parents. Et on est un petit peu impuissant face à ça. Et on vit au jour le jour et on fait des choses qu'on ne devrait pas faire parce que notre métier, c'est bien d'enseigner. Et on essaye de tenir cette école parce que je crois qu'on a encore l'amour du service public. Mais c'est compliqué. Et je pensais honnêtement que ça allait craquer lundi. Et ça ne craque toujours pas. Voilà. Donc, je crois que si on travaille en entreprise, on serait super performant parce qu'on a une capacité de résilience qui est énorme. Voilà.
Merci. Merci Claire pour votre témoignage. Il y a Léon, l'école va très mal aussi, burn-out total. Alors, au-delà de ça, Johanna Cornou, c'est aussi, au fond, une illustration des moyens accordés à l'école, les fameux capteurs de CO2. Comment ça se passe dans votre école du Havre? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez en quantité suffisante? Quel dialogue avec la mairie? Comment ça se passe?
Comment vous dire? J'ai zéro capteur de CO2 dans mon école de 11 classes. Je n'ai même pas pour l'instant fait la démarche de demander, honnêtement, hein, je vais pas le cacher, parce que je vais pas faire croire que je l'ai demandé. Parce que, de toute façon, on ne sait même pas à qui on doit les réclamer, on ne sait pas.
Bah, théoriquement, aux villes, me semble-t-il, pour une école élémentaire.
En principe, voilà, ce sont les villes qui équipent, mais si vous voulez, pour les capteurs de CO2, il y a des dispositifs particuliers qui ont été mis en place avec les préfectures et un budget de l'État pour soutenir les collectivités. Et je pense que il y a une telle confusion dans toutes ces choses-là, dans tous les circuits, qu'on ne sait même pas, en fait. On ne sait même pas. Nous, vous savez, dans les directeurs d'école, on a des catalogues tout faits, on a des listes, on fait nos fournitures sur les études de marché de la ville, etc. Donc, c'est vraiment très restreint nos possibilités d'action. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles des capteurs. J'espère qu'on va en avoir bientôt. Et pour tout vous dire, quand on a passé 72 heures dans une semaine, comme ça m'est arrivé juste avant les vacances de Noël, pour gérer les questions Covid, on n'a pas du tout le temps de tirer les sonnettes pour savoir à qui on doit s'adresser pour demander ça, quoi.
Et alors, ce que disent les médecins, c'est les capteurs, c'est une chose et c'est très bien. On peut aussi ouvrir la fenêtre. On est le 5 janvier. Est-ce que vous avez la possibilité d'ouvrir la fenêtre sans demander aux élèves de mettre 3 manteaux et 4 bonnets?
Alors,
et est-ce que la configuration de l'école le permet? Il y a ça
voilà.
aussi.
Ouais. C'est surtout ça. En fait, on est assez chanceux parce que les fenêtres s'ouvrent dans notre école. Ouais. Cependant, donc j'ai deux bâtiments. Moi, j'ai un bâtiment principal dans lequel les classes sont assez grandes. Et j'ai un bâtiment annexe dans lequel les classes font, je crois, 45 mètres carrés. Ouais. Donc avec une classe la plus chargée cette année, c'est pareil, c'est pas très chargé, c'est 26. Mais quand on prend les petits outils de calcul, on devrait ouvrir et ventiler la pièce complètement toutes les 11 minutes dans ce bâtiment-là. Donc en fait, concrètement, c'est ouvert tout le temps, tout le temps.
Emmanuel Garraud, cette question des capteurs, qu'est-ce qui bloque? C'est trop cher? C'est les municipalités? C'est le lien entre municipalité et ministère de l'Éducation? Qu'est-ce qui bloque?
Bah, il est difficile d'en avoir une vision totalement claire dans la mesure où la situation est très hétérogène en fonction des villes. Ouais. Parce que, comme vous l'avez rappelé, c'est principalement aux villes qu'incombe c'est un tel équipement. Donc, on constate aujourd'hui qu'il y a des villes qui ont équipé toutes les classes de leurs établissements. Et puis d'autres pas du tout. Et puis d'autres de manière extrêmement partielle. Si je devais prendre un exemple précis qui ne concerne pas une école mais un collège, puisque c'est un établissement que je connais plus particulièrement. Ils ont en tout et pour tout 27 classes et deux capteurs. Dont un qui est réservé à la salle des professeurs, Et bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une volonté de la ville en question de procéder à des équipements futurs. Mais effectivement, la situation est très hétérogène et donc ça veut dire que l'ensemble des acteurs, et notamment les directeurs d'école, doivent vraiment faire le siège de leur mairie respective pour demander l'équipement nécessaire.
Merci à tous les deux, Emmanuel Garreau, Johanna Cornou, d'avoir participé à cette émission et je retiens notamment cette expression de rentrée perlée qui définit sans doute ce qui se passe 3 jours après et ça ne fait que commencer, on continuera de suivre ça. 13h44.
France Inter. Le 13-14.
À suivre, bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Le vif de l'histoire, il y a un an, l'assaut du Capitole, autre grande crise de la démocratie américaine. Dans le vif, aujourd'hui, l'assassinat de Kennedy.
Et 2 commissions, une à chaque fois.
Un rendez-vous dans 10 minutes. Avant cela, le feuilleton, une semaine dans la maison médicale ouverte à Cholet pour combler le manque de médecins dans la région. Des retraités reprennent du service, une infirmière se fait secrétaire médicale. L'expérience est précieuse pour les patients, pour les professionnels de santé aussi qui y trouvent un nouvel élan. Nous verrons cela dans 5 minutes, mais tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
C'est une mini-série en 3 épisodes à voir demain soir sur Arte. Les Hautes Herbes, la première série du cinéaste Jérôme Bonnel. Qui est à votre micro le temps d'une chanson?
Et il m'a tout d'abord parlé de cette histoire qui, j'en suis certain, vous plaira, Bruno. Un été dans la campagne tourangelle, un jeune saisonnier disparaît sans que personne ne s'en inquiète, excepté Ève, une habitante incarnée par la toujours parfaite Emmanuelle De Vos. Parallèlement, sa fille accueille un petit garçon qui va découvrir que les adultes cachent parfois de lourds secrets.
Quand j'ai fait Les Hautes Herbes, c'était la première fois que je me collais vraiment directement à l'enfance, parce que j'ai fait d'un enfant un de mes personnages principaux. Et c'est un enfant voilà, qui va regarder les adultes et comprendre des choses inquiétantes qui sont trop grandes pour son âge et se retrouver en danger, puisque la série est une espèce de thriller comme ça, sur la pointe des pieds, où ça démarre comme ça de la disparition de quelqu'un, on pourrait croire que c'est anodin. Puis petit à petit, il y a une intrigue qui se tend et qui se dénoue vraiment comme dans un thriller, avec cet enfant au milieu qui regarde les adultes, mais je sais plus qui a dit le polar a été inventé pour les gens qui n'arrivaient pas à dormir et que tant qu'ils savent pas qui est l'assassin, ils trouvent pas le sommeil. Et moi, j'étais ce genre d'enfant, justement, qui passait des étés à lire Agatha Christie ou qui tremblait devant les films d'Hitchcock ou devant La Nuit du Chasseur ou des films que je regardais avec ma grand-mère comme Les Disparus de Saint-Agile. Et en fait, je pense que je voulais m'adresser à cet enfant-là, à l'enfant que j'étais.
L'enfant que j'étais me tourmente. Elle est gentille, elle est charmante, mais je la trouve trop présente. Elle me traite sans égard. Elle m'obsède, elle m'égare et transparaît dans mes regards. L'enfant que j'étais est méchante, piégeois dans mon cœur, elle se plante, elle réclame, elle est violente. Comment pourras-tu l'apaiser? Toujours elle se sent lésée et veut bien plus que des baisers.
C'est donc la voix de Jeanne Moreau qui a choisi de nous faire écouter Jérôme Bonnel, Frédéric.
Sa chanson « L'enfant que j'étais » parue sur son disque. Jeanne chante Jeanne en 1970, elle en a signé les paroles. La musique est de Jacques Datin et c'est l'une des chansons préférées de Jérôme Bonnel.
C'est en regardant un documentaire sur Jeanne Moreau que cette chanson à un moment donné est apparue et qu'elle m'a tellement bouleversé que je l'ai après retrouvée et il y a une espèce de chose comme ça... entre les mots, le rythme et sa façon de la chanter, que je trouve absolument magnifique.
Qu'est-ce qui vous touche particulièrement?
Ce qui me bouleverse, c'est cette espèce de tristesse calme, de tristesse presque acceptée, qui est d'ailleurs celle de Jeanne Moreau, j'ai l'impression. Puis à un moment donné, ça monte, comme si l'émotion la débordait, un truc bouleversant. Et d'ailleurs, j'avoue que je l'écoute très peu, parce que très longtemps, je pouvais pas l'écouter sans pleurer.
L'enfant, moi, est désarmante, elle veut être plus qu'une amante. Et l'idée de la mort la hante. Je voudrais pouvoir l'endormir ou peut-être la faire sourire, exaucer un de ses désirs.
Jeanne Moreau, elle disait une chose, je crois qu'au fond, elle avait une vie amoureuse extrêmement remplie. Mais qu'à la fin de sa vie, elle a dit, vous savez, je crois que je suis jamais tombée amoureuse de ma vie. Et je sais pas à quel point elle raconte un petit peu ça dans cette chanson aussi. Enfin, elle raconte tous les manques de l'enfance. Mais ça fait aussi penser à Marguerite Duras, à qui on demandait « Pourquoi buvez-vous ?» Et elle répondait « Pour combler des trous creusés en moi, un jour, il y a longtemps. » Et c'est bouleversant.
Il y en a beaucoup des trous chez vous, à combler ?
Ah, chez moi, oui, oui, mais moi, j'ai eu une enfance très heureuse. Et je crois que c'est aussi pour ça que la chanson de Jeanne Moreau me touche autant. Vous allez trouver que j'exagère, mais je pense que c'est la plus belle chanson du monde. Voilà. C'est un miracle, en fait. C'est la grâce absolue.
Cet enfant est vraiment dément. Elle se plaint et se lamente. Souvent, je hais cette mendiante. Elle ignore le parfum des fleurs. Ne reconnaît plus les couleurs. Confond le rire avec les pleurs.
Enfant que j'étais, Jeanne Moreau. C'était donc Frédéric, le choix du cinéaste Jérôme Bonnel.
Donc vous pourrez voir la mini-série Les Hautes Herbes demain soir sur Arte. Elle est déjà en ligne sur le site de la chaîne. Moi j'ai beaucoup aimé.
Et cher Frédéric, je ne vous dis pas à demain, mais à vendredi. Demain, le 13-14, il est à l'hôpital de Saint-Dié-des-Vosges en pleine double vague de Covid. Comment un petit établissement affronte-t-il la pandémie? Et au-delà de cela, à moins de 100 jours de la présidentielle, quelle réforme nécessaire pour l'hôpital et l'offre de soins en zone rurale? Ce sera notre sujet, sujet qui est également au cœur du feuilleton toute cette semaine. Oui, car avec Sarah Guibaudot, nous passons la semaine à la Maison Médicale, service médical de proximité près de Cholet, service ouvert en mars pour combler le manque de docteurs, avec l'appui d'un groupe mutualiste et le soutien de l'Aglo. Parmi ceux qui y travaillent, il y a des médecins retraités qui ont repris du service, mais aussi d'autres qui n'ont pas totalement fini leurs études. Leurs aînés espèrent qu'ils vont rester. Et puis aussi une infirmière qui a accepté de changer de statut et devenir secrétaire médicale, sans le moindre regret, au contraire. Bref, cette expérience est très précieuse pour les patients, mais aussi pour les professionnels qui y exercent. C'est l'épisode 3 du feuilleton.
Bonjour.
Vous connaissez Violaine?
Non,
c'est notre interne.
D'accord.
On va peut-être prendre l'attention, voir un peu.
Ah oui, hein. Oui, d'accord.
Oui, vous pouvez enlever le, oui, le manteau.
Je suis Corinne Chaudon, j'étais installée avec mon mari pendant plus de 35 ans dans un petit bourg à 10 km de Cholet.
Donc vous êtes médecin retraité et vous avez repris du service ici au centre de santé, racontez-moi.
Voilà. Étant donné qu'il n'y avait plus de médecins dans l'agglomération du Choletais, donc ce projet nous tenait à cœur à toute cette petite équipe et donc on a pu remonter ce centre depuis le 1er mars et depuis on voit des patients qui n'ont pas vu de médecin depuis 2 ou 3 ans. Au niveau du dépistage du cancer du côlon, ils n'ont pas eu leurs hémocultes. Même d'autres cancers, bon, type prostate, ils n'ont pas eu leur bilan aussi. Il y a du retard, l'hôpital ne peut pas trop suivre non plus. Et puis, il y a eu la période Covid aussi. Moi, je pense que c'est important. Et puis, en prenant des internes, ça permet de... Peut-être qu'un jour, un interne aura envie de s'installer dans le Choletais. Mon mari a arrêté fin 2016. Il a eu un successeur qui était un interne. Et moi, j'ai arrêté en 2018. Et c'est une de mes anciennes internes qui a pris ma suite. Et c'est satisfaisant de ne pas avoir laissé une commune de 2000 habitants sans médecin.
La tension est élevée. Alors je disais, ça serait bien qu'il contrôle chez lui.
On va demander à notre infirmière peut-être de vous trouver un pharmacien qui peut vous prêter.
Je veux bien. Hein.
Dans le centre, on a la chance d'avoir un secrétaire et aussi une infirmière qui peut nous aider dans les démarches. Et c'est vrai que c'est un progrès d'avoir créé ce poste-là. C'est vraiment important.
Au revoir, madame.
Au revoir, à bientôt, bonjour, monsieur. Bonjour. Et puis je vous tiens au courant cette semaine.
D'accord. Hein.
Puis bonjour à votre ami. Hein.
Pas de problème, merci.
Cabinet médical, bonjour. Oui, vous êtes suivi au cabinet?
Donc vous voudrez que je prenne le rendez-vous pour auprès du gynéco?
Alors je m'appelle Caroline Poiron, à la base je suis infirmière. Lorsqu'il y a un besoin pour orienter le patient vers un spécialiste, bon, mais j'essaye de faire en sorte d'accélérer un petit peu le rendez-vous. Je peux apporter aussi, du fait de ma formation, un soutien psychologique aussi auprès de patients qui, malheureusement, sont amenés à vivre des moments plus difficiles dans leur vie.
Pourquoi vous êtes passée justement d'un travail d'infirmière à assistante médicale dans un cabinet? Qu'est-ce qui...
Je ne retrouvais plus la notion de travail d'équipe. dans mon travail d'infirmière, ce que j'ai retrouvé aujourd'hui. J'ai retrouvé l'élan que j'avais perdu à travailler.
À l'hôpital ?
À l'hôpital, oui. Et c'est vrai que je revis sur le plan professionnel et donc du coup sur le plan personnel aussi.
Un médecin me disait à quel point ce poste d'assistante médicale est vraiment important pour eux, ça les décharge.
Je pense que ça leur fait gagner aussi un petit peu de temps, enfin, ce qui est important pour le patient. Enfin. Cabinet médical, bonjour. Alors là, j'ai eu un désistement, si vous voulez, pour demain matin. Demain matin à 10h30. D'accord ? Alors, je vais prendre le nom de famille.
On retrouve le feuilleton de Sarah Guibaudot. Vendredi, demain, le 13-14, donc à l'hôpital de Saint-Dié-des-Vosges, pour parler de sujets qui ressemblent beaucoup à ce qui est évoqué dans ce feuilleton.
France Inter. Le 13-14.
Quels enseignements tirer des épisodes de crise dans les démocraties aux USA ? Il y a un an, des émeutiers chauffés à blanc par Donald Trump faisaient irruption au Capitole pour empêcher la certification des résultats de la présidentielle et la défaite de Trump. La commission d'enquête de la Chambre des représentants travaille toujours sur le sujet. Autre moment de crise, l'assassinat de Kennedy en 1963. C'est le vif de l'histoire aujourd'hui, Jean Lebrun. C'est le moment de s'intéresser à un documentaire que l'on peut voir sur la plateforme OCS, œuvre d'Oliver Stone, l'auteur de JFK. Elle s'appelle celle-ci JFK Revisited, dans lequel il exploite les dernières archives déclassifiées.
Deux crises, deux traumatismes, Bruno, deux commissions d'enquête. Alors en 63, le successeur de Kennedy, Lyndon Johnson, avait nommé à la tête de la sienne le juge Warren, président de la Cour suprême. La conclusion de la commission Warren, peut-être recherchée depuis le départ, fut qu'un seul homme était coupable, Lee Harvey Oswald. Du sixième étage du dépôt des livres scolaires de Dallas, il avait tiré trois fois en direction de la limousine présidentielle qui passait plus bas. Une balle avait raté l'objectif, une autre, fatale, s'était logée dans le crâne de Kennedy. Une troisième, un peu magique, il faut bien le dire, avait troué la gorge du président pour ressortir et blesser trois fois son voisin dans la limousine, le gouverneur du Texas, touché à la fois au dos, au poignet, à la cuisse. Alors on se souvient que, comme tant d'autres, Oliver Stone avait dans un premier film, en 91, remis en cause cette version. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre tireur? Et puis pourquoi un homme de la nuit, l'interlope Jack Ruby, avait éliminé aussitôt Oswald, Oswald qu'on n'avait pas pu faire parler. Après son deuxième film, comme après le premier, Stone reste persuadé que Kennedy, au nom de la détente qu'il aurait voulu alors faire prévaloir, avait décidé de se retirer du Vietnam et que ses adversaires dans l'administration, à commencer par Johnson, avaient voulu l'éliminer. Mais enfin, on n'a pas beaucoup de preuves de cette volonté de Kennedy. Et Johnson, présenté comme un cow-boy obtus, il faut dire qu'il a réussi à faire passer des textes de gauche que les hommes de Kennedy, supposés les meilleurs et les plus intelligents, n'avaient pas su imposer. Texte antiségrégationniste, programme anti-pauvreté, et si collusion il y a eu entre Johnson à la Maison-Blanche et Warren à la Cour suprême, ce fut pour imposer un nouveau New Deal, en tirant parti de l'émotion, du deuil, peut-être du remords provoqué par l'assassinat de Dallas. Karl Johnson, Bruno, ce n'est pas l'usurpateur que dénonce Stone, mais un grand réformateur. Et aujourd'hui, allez-vous dire?
Oui, aujourd'hui, une autre commission d'enquête, après un autre grand traumatisme, l'attaque du Capitole, donc le 6 janvier 2021.
Alors, cette commission, elle est issue d'une initiative de la Chambre des représentants. Et elle est composée de 7 démocrates, flanqués, il est vrai, de 2 républicains. Deux républicains, comme la fille de l'ancien président Cheney, qui sont considérés comme des dissidents. En 63-64, Warren, c'était un républicain. Mais un de ces républicains dit modéré, comme il n'en existe presque plus aujourd'hui, partisan d'une coopération bipartisane. Alors les deux commissions, Warren et 6 janvier, se heurtent en fait à une même difficulté. La commission Warren avait collationné 26 volumes de textes, mais ne lui sont parvenus que des textes qu'elle n'avait pas suscités. Ne travaillant qu'un an, elle n'avait pas disposé d'assez de temps pour mener elle-même des investigations, juste assez pour vérifier ce que lui fournissaient les institutions qui avaient gardé pour elle nombre d'informations. En 92, une loi a prévu de déclassifier sur un quart de siècle des documents restés secrets. C'est dans cette masse qu'a plongé Oliver Stone pour son nouveau film. Alors qu'en est-il pour la commission du Capitole ? Des documents lui ont été fournis, par exemple par Mark Meadows, l'ancien chef de cabinet de Trump. Mais ceux-ci n'étaient pas couverts par le secret de l'exécutif. Et maintenant, Meadows refuse de coopérer. les avocats de Trump, cernés de plus en plus près, vont expliquer que le secret de l'exécutif couvre les conversations de Trump pendant les heures de l'assaut du Capitole. Alors, dans l'affaire, la responsabilité morale et politique de Trump est évidente, mais si sa responsabilité pénale était affirmée, il ne pourrait se représenter en 2024. La commission du 6 janvier, elle non plus n'a pas beaucoup de temps. Les élections du 6 novembre, c'est bientôt mid-term. Ce qui est sûr, c'est que le climat politique étant ce qu'il est maintenant, la commission du Capitole n'ouvrira pas sur une éclaircie démocratique comme au temps de Johnson et de Warren, mais sur de nouveaux orages.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire tous les jours, juste avant 14h et juste après, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Quel est le programme aujourd'hui avec Camille Cronier?
Eh bien, comme on en a pas assez avec le Covid, on va vous parler grippe aviaire aujourd'hui. Ne me remerciez pas.
À tout de suite.